VOA Afrique,
le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, Eric Manilakidza et Anne Albelton avec vous en direct de Washington. Vous suivez le monde aujourd'hui, édition du jeudi 16 novembre 2017. D'abord, le sommaire.
Situation toujours incertaine à Harare. L'armée retient encore Robert Mugabe en résidence surveillée. Difficile de prédire l'avenir.
Le pays a été très mal gouverné, conduit au désastre actuel.
L'analyse d'Achille Mbembe.
Centrafrique, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique se retire du programme de démobilisation.
Angola, limogeage de la fille de l'ex-chef de l'État, José Eduardo dos Santos, à la tête de la compagnie pétrolière nationale.
Journée nationale de la paix à Boaké en Côte d'Ivoire.
Nous devons taire nos rancœurs, nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont offensés et à tous ceux que nous avons offensés.
Vous aurez le compte-rendu de Siriki Baro.
Plus de 4 millions d'enfants et de jeunes adultes sans abri aux États-Unis.
Et ne manquez pas votre page d'espoir ainsi que l'actualité économique après le journal.
Au Nigeria, 18 personnes ont été tuées hier dans 4 attentats suicides. 4 kamikazes se sont fait exploser à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. 29 autres personnes ont été transférées à l'hôpital pour être soignées de blessures diverses.
Les Zimbabwéens, toujours face à un avenir incertain, le président Robert Mugabe, placé la veille en résidence surveillée, laisse la voie à diverses spéculations à la suite du coup d'État, du coup de force de l'armée. N'est-ce pas Jean-Roger Bion?
La majorité des habitants du Zimbabwe n'ont connu comme leader que M. Mugabe. Il a actuellement 93 ans et règne d'une main de fer sur son pays depuis son indépendance en 1980. L'entrée en scène de l'armée, une première dans ce pays, intervient au milieu de querelles pour la succession du plus vieux dirigeant en exercice de la planète. Hier matin, des soldats et des blindés ont encerclé le Parlement, le siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et la Cour suprême avant d'occuper les points stratégiques de la capitale Harare. Des responsables de la sécurité de l'aéroport ont expulsé plusieurs journalistes étrangers qui venaient d'arriver au Zimbabwe. Dans un entretien téléphonique avec son homologue sud-africain Jacob Zuma, le président Mugabe a fait savoir qu'il était retenu à son domicile par les militaires. L'armée essaie difficilement de faire croire que ce qui se passe n'est pas un coup d'État pour ne pas subir les foudres de la SADC et de l'Union africaine. En revanche, les Zimbabwéens semblent prêts à tourner la page Mugabe. D'après l'analyste Théophilus Achimpong, l'armée va probablement négocier une transition au profit du vice-président évincé Emmerson Mnangagwa.
Les réactions à la situation au Zimbabwe maintenant avec Abdourahman Dia.
Le Guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a dénoncé ce qui apparaît à ses yeux comme un coup d'État au Zimbabwe et demandé aux militaires de se soumettre à la légalité constitutionnelle. Le président sud-africain Jacob Zuma, qui a dépêché 2 médiateurs à Harare, s'est déclaré hostile à tout changement de régime inconstitutionnel. Le secrétaire général de l'ONU a lui appelé à la retenue. Antonio Guterres réclame le calme, la non-violence et de la retenue. L'Union européenne s'est dite préoccupée tout en appelant au dialogue en vue d'une résolution pacifique. Pour sa part, Theresa May, la première ministre de Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale, appelle les partis à éviter la violence et son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, a conseillé aux ressortissants britanniques de ne pas sortir. Washington, de son côté, appelle au calme et demande le recours aux moyens constitutionnels pour résoudre les différends. L'ambassade américaine a aussi demandé à ses citoyens de rester chez eux dans ce climat d'incertitude politique.
Abdourahman Dia, en Tanzanie, 11 personnes ont été tuées dans l'accident d'un avion d'une compagnie spécialisée dans les safaris Coastal Aviation. Il s'est écrasé à proximité du cratère du volcan Empakai dans le nord de la Tanzanie. L'identité des victimes ne sera rendue publique qu'une fois leur famille informée. Il y a quelques étrangers et des Tanzaniens travaillant dans le tourisme.
En République centrafricaine, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique suspend sa participation au programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Le FPRC est à la tête d'une coalition de groupes armés. Des détails avec Eddie Isango.
Le leader du FPRC, Nuruddin Adam, indique que les bureaux politiques de son groupe armé suspendent toutes les négociations en cours avec les gouvernements et retirent ses représentants du comité chargé du DDR. Un de ses proches, Fadoul Bachar, accuse le gouvernement d'être incapable de sécuriser la population, même dans la capitale, Bangui. Le FPRC se dit être exacerbé après les dernières violences qui ont fait au moins 7 morts et plus de 20 blessés aux abords du quartier musulman du PK5. Ces groupes armés s'étaient déjà opposés dimanche à l'installation des nouveaux préfets dans le nord du pays. Position également adoptée par les mouvements pour la Centrafrique, ce que la MINUSCA juge pourtant inacceptable. Hier, les conseils de sécurité ont adopté à l'unanimité une résolution reconduisant pour un an les mandats de la mission onusienne avec 900 casques bleus supplémentaires.
En Angola, le nouveau président João Lourenço a limogé hier la fille de José Eduardo dos Santos, l'ex-homme fort de Luanda. Isabelle dos Santos dirigeait la compagnie pétrolière nationale. Morgane Guiriec a les détails.
Cette éviction est un geste fort de João Lourenço, qui a promis à plusieurs reprises de rompre avec l'héritage de son prédécesseur. Surnommée la princesse, Isabelle dos Santos, 44 ans, avait pris en 2016 la direction de la Sonangol, la compagnie nationale de pétrole, en pleine turbulence depuis la chute du prix du baril du brut. La nomination de celle que le magazine Forbes présente comme la femme la plus riche d'Afrique avait suscité de vives critiques des adversaires de son père, accusés d'avoir privatisé l'économie du pays au bénéfice de ses proches. Successeur de M. dos Santos, João Lourenço, a pris les rênes du pays en septembre après la victoire du parti au pouvoir aux élections générales d'août 2017. À la veille de sa victoire, l'ancien ministre de la Défense, âgé de 63 ans, avait proclamé « Personne ne sera au-dessus des lois ».
Le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a prévenu que l'Afrique du Nord est menacée par le retour des combattants étrangers du groupe État islamique après leur défaite en Irak et en Syrie. Son homologue égyptien, Sameh Shoukry, a estimé que la priorité de préserver l'unité, la stabilité et l'intégrité territoriale de la Libye, de maintenir le dialogue et l'accord politique libyen comme seule base pour régler la crise.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont demandé un vote du Conseil de sécurité sur une prolongation d'un an du mandat des enquêteurs de l'ONU et de l'OIAC sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Cette prolongation fait l'objet depuis des semaines d'un conflit entre Washington et Moscou, soutien de Damas et doté d'un droit de veto à l'ONU. Le Kremlin réclame une révision de leur mission et de la composition de leur groupe appelé JIM.
D'importantes manœuvres aéronavales américano-japonaises commence aujourd'hui près de l'île japonaise de Kinawa, dans le sud-ouest de l'archipel. Ces exercices bilatéraux annuels se déroulent cette année dans un climat très tendu avec la Corée du Nord. Ces opérations doivent durer 10 jours et vont impliquer 14 000 militaires américains, le porte-avions USS Ronald Reagan ainsi que les destroyers lance-missiles USS Stethem, USS Chaffee et USS Mustin notamment. Ces manœuvres visent à augmenter la capacité défensive et l'interopérabilité des forces japonaises et américaines par des entraînements d'opérations aériennes et navales.
Les États-Unis, pays le plus riche au monde, comptent plus de 4 millions d'enfants et de jeunes adultes sans abri. C'est ce que révèle une étude publiée hier par l'Université de Chicago. Le point avec Solange Niamoulissa.
Les chercheurs de l'Université de Chicago ont appliqué une définition au sens large du terme de sans-abri, incluant les personnes vivant dans la rue, dans des refuges et celles restant temporairement chez des tiers, faute d'avoir leur propre logement. Matthew Morton a expliqué que cette étude a pour objectif de donner aux Américains, pour la première fois, une vision plus complète des jeunes sans-abri dans ces pays. Ainsi, 700 000 adolescents de 13 à 17 ans sont sans domicile fixe, et 3,5 millions de jeunes âgés de 18 à 25 ans. De nombreux jeunes ont indiqué être sans-abri pour la première fois. Les Noirs et les Hispaniques sont les plus exposés, ainsi que les homosexuels et transgenres. Les chercheurs de Chicago estiment que les résultats de leur étude pourraient aider les autorités à appréhender le problème pour une action rapide. L'étude a également établi que le taux de jeunes sans-abri est similaire dans les zones urbaines et celles rurales, même s'ils sont moins visibles dans les campagnes américaines.
De l'actualité, nous passons à la chronique de l'économie avec Arzuma Compaoré.
En Côte d'Ivoire, la société d'investissement Investisseurs et Partenaires via le fonds ivoirien Comoé Capital et la fondation Jacobs ont annoncé hier la création de l'Education Impact Fund. Son objectif est d'apporter des financements ainsi qu'un accompagnement technique et stratégique à des PME et start-up ivoiriennes œuvrant dans le domaine de l'éducation. À la clé, des financements de 10 000 à 200 000 euros. Le plus grand réseau de téléphonie mobile au Bénin, fort de 4 millions d'abonnés, est à nouveau mis en cause pour manquement à ses engagements contractuels. Le 7 novembre dernier, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin a ouvert une procédure de sanction contre la filiale locale de MTN à qui elle reproche de n'avoir pas payé 134,435 milliards de francs CFA de redevances annuelles au titre des années 2016. Et 2017. La bière artisanale a le vent en poupe en Afrique du Sud. Même si les bières sud-africaines ne jouissent pas encore d'une reconnaissance internationale, contrairement au vin, selon la société d'études Grand View Research, d'ici 2025, le marché mondial de la bière artisanale pèsera plus de 500 milliards de dollars, 6 fois plus qu'en 2015.
Change maintenant de registre pour parler sport ce matin. Yacouba Ouédraogo, bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On commence avec le football. Le Pérou est le dernier qualifié pour le mondial russe l'été prochain.
Et oui Eric, grâce à sa victoire 2-0 devant la Nouvelle-Zélande, les Péruviens seront en Russie. Les deux formations s'étaient séparées dos à dos au match aller, 0-0 samedi dernier à Wellington.
Et on connaît tous les chapeaux avant le tirage au sort du 1er décembre à Moscou, n'est-ce pas Yacouba?
Tout à fait, les chapeaux du Mondial 2018 sont pratiquement complets. Les têtes de série devront surtout éviter l'Espagne dans le chapeau 2. La répartition des sélections se fait sur la base du classement FIFA du mois d'octobre. La Russie, pays hôte, est automatiquement dans le premier chapeau. Deux nations d'une même confédération ne pourront se retrouver dans le même groupe, hormis celles issues de l'Europe, à raison de deux par groupe maximum. Dans le chapeau 1, on retrouve la Russie, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique, la Pologne et la France.
La CAF a dévoilé la composition des pots du tirage au sort du CHAN 2018, qui aura lieu vendredi à Rabat.
Tout à fait, Eric. Ici aussi, on parle de chapeau. Les quatre comprenant les 16 équipes qualifiées ont été décidées sur la base d'un classement établi en prenant compte des performances lors des dernières éditions du tournoi final de cette compétition réservée exclusivement, on le rappelle, aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leurs pays respectifs. Dans le pot 1, on retrouve le Maroc, pays hôte, l'Angola, la Côte d'Ivoire et la Libye. Dans le pot 2, on a le Cameroun, la Guinée, le Nigeria et la Zambie. Dans le pot 3, Congo, Ouganda, Rwanda, Soudan. Et enfin, dans le pot 4, on retrouve le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, la Mauritanie et la Namibie. La compétition aura lieu du 13 janvier au 4 février 2018 dans les villes suivantes. Casablanca pour le groupe A, Marrakech pour le groupe B, Tanger pour le groupe C, Agadir pour le groupe D. Le match d'ouverture et la finale se joueront au complexe Mohamed V de Casablanca.
Et l'Italie à la recherche de son sélectionneur. De quoi s'agit-il, Yacouba?
Effectivement, Gianpiero Ventura n'est plus le sélectionneur de l'équipe d'Italie après l'élimination surprise pour le Mondial 2018 en barrage contre la Suède. La nationale n'avait plus connu une telle humiliation depuis 1958. Selon la presse sportive italienne, les dirigeants de la fédération espèrent convaincre Carlo Ancelotti, libre après avoir été remercié par le Bayern Munich, de prendre en main la sélection.
Oui, Yacouba, Carlo Ancelotti, l'un des meilleurs techniciens du football. Nous avons quelques résultats de la NBA, championnat de basket nord-américain. Avant de vous quitter, lors de défaite de Sacramento Kings à domicile devant Atlanta Hawks 126-80, Washington Wizards est sorti victorieux de son duel face à Miami Heat 102-93. Victoire aussi pour Toronto Raptors devant New Orleans Pelicans 125-116. Enfin, défaite pour Chicago Bulls face à Oklahoma City Thunder, 79 à 92. C'est tout pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manelakidza. Nous passons maintenant à notre dossier du jour. Nous revenons sur la situation au Zimbabwe. Robert Mugabe, mis en résidence surveillée, et l'armée affirme qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Pour tenter de comprendre cette situation, Claire Morin-Gibourg s'est entretenue avec le rédacteur en chef de VOA Afrique, Idriss Fall. Il a couvert la région de l'Afrique australe depuis longtemps.
D'abord, c'est parti de la mise en garde sévère du chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, qui lundi, en fait, s'est levé pour dire « il faut que la purge cesse ». On venait de limoger la semaine d'avant Emmerson Mnangagwa, le vice-président, qui était aussi, rappelons-le, un ancien ministre de la Défense et aussi un ancien chef des services secrets zimbabwéens. Donc ça s'est accéléré et le général a décidé de passer aux actes. Et M. Mugabe est en résidence surveillée, donc dans sa résidence privée à Harare. Et il faut dire qu'avant le limogeage de Mnangagwa, Joyce Mujuru, qui était l'ancienne vice-présidente, elle aussi, elle est passée à la trappe en 2014. Il ne faudrait pas l'oublier. Donc, il y a eu comme une série de limogeages de successeurs potentiels au président Mugabe et son épouse Grace Mugabe, qui est son ancienne assistante, qui a 52 ans, a affirmé la semaine dernière à Bulawayo dans un meeting que, en fait, elle est prête à succéder à son mari. Donc, c'est généralement une lutte pour le pouvoir avec un président qui a 93 ans et qui s'est accéléré, en fait.
Pourtant, on disait que ce pays avait beaucoup de potentiel à son indépendance en 1980.
Absolument. En 1980, l'ancienne Rhodésie de M. Ian Smith devient un pays indépendant, nommé maintenant le Zimbabwe. Salisbury, l'ancienne capitale, devient Harare. Et c'est à la suite des accords dits de Lancaster House. Et M. Mugabe, quand il est arrivé au pouvoir, il a eu beaucoup de sympathie parce qu'il a appelé à la réconciliation nationale. Il a permis à Ian Smith, un pays où un noir n'avait même pas le droit de marcher sur le même trottoir qu'un blanc, il a autorisé aux blancs de rester. Et même d'avoir une groupe parlementaire de blocage. Ça a rassuré beaucoup de gens. Le Zimbabwe était exportateur de produits agricoles à l'époque jusque vers les États-Unis. Le Zimbabwe avait l'un des systèmes sanitaires les plus développés sur le continent au nombre de médecins par habitant. Mais 20 ans après son indépendance, M. Mugabe a décidé de faire l'expropriation des terres des Blancs. Mais n'oublions pas que les accords de Lancaster House, il y avait eu une promesse faite par la Grande-Bretagne d'aider Mugabe à financer en fait cette expropriation, ce qui n'a jamais eu lieu pendant 20 ans. D'où quand il a commencé ses expropriations et donné ça à d'anciens combattants qui n'ont jamais conduit un tracteur, la communauté internationale a tapé du poing sur la table. Il n'y a plus d'exportation agricole, le système sanitaire, tous les médecins ont fui vers l'Afrique du Sud et l'Australie et le résultat est là, l'économie est par terre.
C'était la lecture de Idriss Fall sur l'environnement politico-militaire à Harare. La crise actuelle donc au Zimbabwe remet en lumière la crise économique que traverse le pays depuis 37 ans, toutes ces années marquées par une gouvernance économique désastreuse. Pour comprendre comment le Zimbabwe en est arrivé à une situation économique aussi déplorable, Didi Diko a joint à Paris le professeur de sciences politiques et d'histoire à Pretoria, Achille Mbembe.
Cette situation est due à conjugaison d'une mauvaise gouvernance et de choix économiques hasardeux qui ont commencé au milieu des années 90 lorsque le Zimbabwe a été contraint de suivre les plans d'ajustement structurel décidés par la Banque mondiale et le FMI. À ce moment, M. Mugabe et ses acolytes ont décidé de jouer la surenchère politique en nationalisant les terres en particulier et en déstabilisant ce faisant la plupart des institutions financières et l'ensemble de l'économie en général qui, faut le rappeler, dépendait de l'agriculture et dans une moindre mesure des matières premières. La suite, on la connaît.
Est-ce que vous pensez que l'erreur principale faite par M. Mugabe au niveau économique est d'avoir exproprié les terres aux fermiers blancs?
Disons que l'expropriation des terres n'a pas aidé à relancer l'économie. M. Mugabe aurait dû, vraiment comme dans les autres pays, appliquer les politiques d'ajustement structurel qui étaient imposées à l'époque aux États africains et à diversifier son économie, quitte à en appeler à des partenaires extérieurs tels que la Chine et d'autres.
Alors le Zimbabwe a aussi beaucoup de ressources minières. Qu'est-ce qui explique que le pays n'arrive pas à s'en sortir avec toutes ces ressources-là, ces ressources naturelles?
Le pays a été très mal gouverné et cette mauvaise gouvernance explique en très grande partie la faiblesse de compétitivité de l'économie zimbabwéenne, ainsi que les dysfonctionnements qui ont été constatés et qui ont conduit au désastre actuel.
Selon vous, quelles sont les perspectives économiques du Zimbabwe? Le pays peut-il véritablement arriver à relever la pente économiquement?
Oui, le pays pourrait se relever assez rapidement.
Rapidement?
Assez rapidement. Si effectivement les nouveaux acteurs politiques mettent en place un système légitime soutenu par la plus grande majorité des Zimbabwéens et ainsi que par les partenaires extérieurs de ce pays, l'Afrique du Sud en particulier, les pays occidentaux également.
Et est-ce que justement la crise actuelle ne risque pas de ralentir davantage le développement du pays?
Non, tout dépend de la manière dont le cycle qui s'ouvre se poursuit. Il faudrait que le régime qui se met en place retourne très vite à la démocratie.
Achille Mbembe, professeur de sciences politiques et d'histoire à Pretoria.
Jacques Aristide avec vous, l'actualité oblige, Washington Forum change de thème et va être plutôt consacré ce jeudi à la situation au Zimbabwe. L'armée a pris le pouvoir à Harare mais dément tout coup d'état. Le président Robert Mugabe a toutefois été placé en résidence surveillée. Que sait-on de ce coup de force militaire? Comment le pays en est arrivé là? Quelle en sera l'issue? Est-ce la fin du long règne sans partage de Mugabe? Qui sont les principaux acteurs de la crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, le palais du Carnaval a accueilli hier la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie et les populations de Boaké venant de toutes les couches socio-professionnelles de la ville. Ils ont échangé ensemble sur la contribution des organisations de la société civile dans l'édification d'une société de paix. Siriki Baro a suivi ces assises qui ont appelé à plus d'engagement. Voici son compte-rendu.
C'est avec l'Abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, qu'a démarré cette célébration de la Journée nationale de la paix. Une journée qui célèbre les valeurs de la paix et de la cohésion sociale, comme nous l'indique Doumbia Soumaïla. Il est le coordonnateur de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie.
Nous allons continuer nos activités de rapprochement de nos populations afin que Boaké puisse être une ville de paix et une ville de cohésion, une ville qui va servir d'exemple au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau international.
La paix ne sera effective que lorsque le pardon des uns envers les autres sera sincère. C'est le message délivré par Kone Vakaba, secrétaire régional 1 de la préfecture.
Nous ne devons plus nous regarder en chien de faïence. Nous devons pouvoir surmonter nos difficultés. Nous devons taire nos rancœurs. Nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont offensés et à tous ceux que nous avons offensés. Nous ne voulons pas des réconciliations de façade.
Édification d'une société de paix. Quelle contribution des organisations de la société civile? C'est le thème de la conférence qu'a prononcée Kwaku Porné. Au cours de son exposé, il a incité les différentes organisations de la société civile à œuvrer dans le sens des intérêts communs.
À l'absence de société civile forte, les partis politiques se trouvent face à face, alors défendant des intérêts particuliers, et cela conduit forcément à des crises et à des conflits. Il est important, si nous voulons une paix durable, si nous voulons une société démocratique, que la société civile prennent toute sa place que la Constitution lui reconnaît.
Les populations, elles, se disent déjà engagées dans le processus devant aboutir au retour définitif de la paix et de la stabilité à Boaké. Leko Traoré est le porte-parole de l'Union des chefs de communauté vivant à Boaké.
Le fait de mettre même l'union des chefs de communauté résidents à Boaké sur pied, c'est déjà une recherche de la paix. À partir du moment où nous avons pu fusionner nos compétences entre les différentes ethnies, on a transcendé toutes les barrières ethniques, idéologiques, et nous travaillons de concert avec les pays membres de la CDAO et le Forum des confessions religieuses avec les chefs traditionnels baoulés. Cela signifie déjà que nous sommes en train d'édifier la paix.
C'est en 1989 que le 15 novembre a été décrété Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire afin de rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny pour son engagement à bâtir et consolider la paix. Chiri Kibaro, Boaké, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Ici aux États-Unis, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson reçoit dès aujourd'hui 37 ministres africains des Affaires étrangères. Cette rencontre dans la capitale américaine constitue le plus grand événement africain de politique étrangère sous l'administration du président Donald Trump. Pour en parler, John Lindon, adjoint le porte-parole du département d'État américain pour l'Afrique, Bryant Neuber.
Le secrétaire d'État Tillerson a invité 37 de ses homologues africains pour des discussions sur trois sujets, ça veut dire la coopération sécuritaire, économique et concernant la gouvernance. Le secrétaire Tillerson veut surtout écouter ses homologues expliquent leurs défis et leurs priorités. Comme dans ce sens, nous pouvons former une stratégie pour faire avancer nos intérêts.
Vous parlez de différents secteurs. Est-ce qu'il y a des priorités dans cette coopération entre les États-Unis et les pays africains?
Bien sûr. Je crois que si nous allons discuter les intérêts des États-Unis en Afrique, il y a deux choses. Tout d'abord, il y a des très grandes opportunités. Donc, si nous parlons d'intérêts communs, ce sont des opportunités économiques. Nous parlons de Power Africa, des questions d'électricité, investissement, commerce, intégration régionale. Et ce qui dit l'administration Trump, c'est que nous voudrions faire du commerce pas uniquement en Afrique, mais avec Afrique. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, malheureusement, il y a, comme vous le savez bien, pas mal de crises en Afrique, RDC, Burundi, la Libye, donc il y a ces questions en Somalie, vous connaissez bien, dans la région du Sahel, et donc c'est les leaders, c'est l'Union africaine et les partenaires africains qui mènent la réponse aux crises, et c'est nous qui accompagnons nos partenaires africains.
Est-ce que le Zimbabwe fait partie des délégations qui sont invitées à Washington?
Non, même avant les événements, le secrétaire Tillerson, l'administration Trump, ils ont choisi 37 pays. Ce sont les pays donc où nous travaillons étroitement pour faire avancer nos intérêts. Bien sûr, le gouvernement zimbabwe ne figurait pas sur cette liste.
Est-ce qu'on peut envisager une visite de Donald Trump en Afrique? Et si tel est le cas, ce serait dans quel pays?
Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de détails d'une visite hypothétique. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est fixé.
Bryant Neuber, porte-parole du département d'État américain pour l'Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TI. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manirakis a été en votre compagnie. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance. Qui s'appelle demain. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. À très bientôt.